RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Johan Charpenet et de Jérémy Toulalan, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Coach Courbis. Roland, bonjour.
Salut les amis et salut à tous.
Édouard G est avec nous en direct de Lyon. Salut Édouard.
Salut Gilbert, salut Roland. Salut, bonjour à tous.
Évaluation salut. Bien sûr après le match face au PSG et puis des débats comme toutes les semaines. Combien de temps Peter Bosz va-t-il tenir dans la deuxième partie de saison, de tableau, s'entend. C'est-à-dire que vu le classement qu'il a, on peut se poser la question raisonnablement. Et puis un peu de tactique, l'OL va-t-il jouer à 3 derrière durant tout le mois de janvier? C'est ce qu'a laissé sous-entendre hier Peter Bosz, vu les absents liés à la Coupe d'Afrique. On en débat tout de suite dans le podcast After Lyon. Démarrons l'évaluation par le traditionnel taulier, nouveau jingle.
Les bolides sont du côté de Lyon.
Voilà. Édouard, quel était ton taulier du match face à Paris?
Alors, j'ai longtemps hésité dans mes chouchous parce que ça y est, ils reviennent dans les tauliers entre Maxence Cacré et Bruno Guimarães. Est-ce que j'ai mis BG sur ma petite feuille? Bruno Guimarães. Et finalement, j'opte pour le Brésilien parce qu'il a fait une passe décisive. Mais franchement, les deux ont été bons et le numéro 39 a été solide. Une protection de balle incroyable. Il oriente, il temporise quand il faut. Franchement, il a tout fait. Physiquement, il a donné jusqu'au bout. Lui qui disait justement après le match face à Metz avant Noël, il faut arrêter de parler, il faut agir, il faut changer notre mentalité. C'est pas normal qu'on soit là. Et bien lui, dès le premier match de 2022, il a franchement à ce niveau-là, c'est masterclass et j'ai l'impression de l'avoir retrouvé. Comme on l'avait découvert en février 2020, souvenez-vous, hein, pour ces gros matchs qu'il avait fait, sitôt arrivé du Brésil, ce joueur repéré par Juninho. Là, franchement, pour moi, c'est une masterclass qu'il nous a fait face au PSG.
Coach, tu es d'accord?
C'est-à-dire, je suis d'accord, j'allais simplifier même les choses. Si tu m'avais posé la question, je t'aurais dit le duo. Le duo Cacré-Guimarães. On va essayer de trouver d'autres duos dans notre championnat. On va les trouver du côté de Lens, tu peux en trouver, du côté de Monaco de la saison dernière, Tchouaméni, Fofana. Et après, tu ne vas pas en trouver beaucoup des duos comme ce duo-là. Donc je trouve ça assez énorme et ce n'est pas la première fois qu'on les voit bons.
Bon, on est tous à peu près d'accord. Le taulier habituel, c'était Lopez. On va voir si Edouard nous le met dans les boulets aujourd'hui. Jingle.
C'était un guignol.
tu mets qui?
Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, il m'a, entre guillemets, fait peur hier. Et c'est pour cela que je le mets dans les boulets, parce que je le présente comme le nouveau Samuel Umtiti, 10 ans après justement les débuts de Samuel Umtiti avec l'OL, c'est Castelo Luqueba. Parce que franchement, alors il n'y a pas forcément à lui reprocher des choses sur l'aspect défensif, mais quand il a le ballon pour la relance, il s'est fait des peurs incroyables. On a l'impression que le ballon lui brûlait les pieds. Il me revenait à ce moment-là, quand je commentais, parce que j'ai noté immédiatement, j'ai dit tiens, je vais le mettre en boulet, mais vraiment un petit boulet, on va dire, parce que c'est quand même difficile de sortir quelqu'un qui a été mauvais hier. Les propos de Jérôme Boateng qui disait en conférence de presse vendredi, il faut arrêter de faire des erreurs bêtes, il faut être plus sûr de soi, il faut avoir de la concentration, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il aurait pu être meilleur, mais bon, il y a quand même une circonstance atténuante. Il vient d'avoir 19 ans, hein, le 17 décembre dernier. Mais quand même, je voulais souligner qu'il y avait encore des petites choses encore bien évidemment à corriger pour être un taulier dans la défense, mais que de progrès quand même.
D'accord, et il y a encore des progrès à faire. Et évidemment qu'à 19 ans, tu as plus de chances de les faire que quand tu t'appelles Boateng ou là. On essaie de réfléchir sur Boateng qui a des qualités, mais qui n'a pas aussi que des qualités. Et quand on parle d'organisation et d'organisation à trois, tu peux te dire que pour le jeune, ça va très bien cette organisation, et pour Boateng aussi. Donc après, on en parlera, puisque je crois que c'est dans la présentation de Gilbert. Oui, mais c'est presque indispensable avec ces joueurs-là. En attendant le retour de Denayer, c'est presque indispensable de jouer à 3.
En sachant que Castello Luqueba a encore prolongé, il avait signé son premier contrat pro au mois de juillet jusqu'en 2024. Et bien là, au 3 janvier 2022, il a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Preuve que voilà, ses premiers pas ont été concluants. Mais je voulais quand même signaler ce côté-là, que le ballon lui brûlait un petit peu les pieds hier.
Qu'est-ce que tu as pensé du match d'Aouar, Roland?
C'est toujours un match avec des hauts et des bas, donc évidemment qu'il y a toujours du talent, mais tant qu'il ne sera pas un peu plus régulier déjà dans ses performances, je dirais de plusieurs matchs, mais aussi dans le même match, il est capable de faire de très bonnes choses, et je ne vais pas dire de très mauvaises, mais de très moins bonnes. Donc c'est un garçon qui, il y a quelques années, était un de mes chouchous. Là, non, je pense qu'il n'y a pas photo dans ce qui est les chouchous, avec par exemple Camara pour moi
De Marseille.
de Marseille, et Aouar. Alors, ce n'est pas le même profil, ce n'est pas le même poste comme tout à fait, mais au niveau de la régularité, ce n'est pas du tout les mêmes joueurs. Là, il faut qu'ils progressent dans cette régularité, sinon, évidemment, le talent est là.
Bon, c'est vrai que bon, je te pose la question parce que c'est un joueur qui provoque un débat éternel
Mais
parmi
oui, mais oui.
les supporters lyonnais. Et hier soir, il aurait pu être décisif, il ne l'a pas été, en l'occurrence. Oussem Aouar. Parlons maintenant de l'avenir. C'est parti. Alors déjà, avenir tactique. Roland, hier, Peter Bosz expliquait, juste je remets le contexte, il disait, après le match, vu les trois absents en attaque à la CAN, je suis obligé de jouer comme ça. Enfin, on a fait le choix de jouer comme ça avec trois défenseurs derrière et tout, ce qui a découlé de tout le reste de l'équipe et de la mise en place également offensive. Donc, sous-entendu, ça veut dire qu'il va pas changer avant la fin de la Coupe d'Afrique, là.
Oui, mais essayons de simplifier encore plus dans le sens que, en ce moment, Coupe d'Afrique ou pas Coupe d'Afrique, Denayer qui est pas là, les latéraux qui sont meilleurs, les couloirs sur le plan offensif que sur le plan défensif, c'est pratiquement une obligation de jouer avec trois arrières centraux. Et ensuite, Dembélé qui est là, tant mieux, ça fait un point de fixation. En plein axe, et que l'on puisse se mettre autour de Dembélé, Aouar et Paqueta, je trouve que c'est une très bonne idée avec ce duo Kakré-Guimarães. Mais là, Gilbert, ce que j'aimerais une fois entendre, mais on n'est pas obligé de fixer une date et se dire obligatoirement quand la CAN sera terminée et tout. Ce n'est pas compliqué de nos jours, c'est presque une obligation de préparer un effectif d'un club aussi énorme que le club de Lyon, avec deux organisations. Tu démarres tes matchs avec trois arrières centraux. À 30 minutes de la fin, tu vois un petit peu ce qui se passe. À un quart d'heure de la fin, tu vois un petit peu ce qui se passe. Et tu peux passer en enlevant un arrière central à ton 4-4-2 ou à ton 4-2-3-3-1. Il n'y a aucun règlement qui interdit de changer d'organisation, pas seulement d'ici la fin février, d'ici la fin d'un match. Et ça, j'essaie de le faire comprendre, je suis loin d'être persuasif parce que j'arrive pas à le faire comprendre que c'est pour moi une évidence et une obligation. Et quand je vois l'effectif de Lyon, je me dis que Peter Bosz, un Peter Bosz qui finalement a été reconduit jusqu'à fin février.
Pardon?
Oui. Ouais, c'est plus. Oui,
Oui, non, mais oui. Il y a une précision qu'il y avait un rendez-vous fin février. Ce qui veut dire que si d'ici fin février.
Ah, ça m'avait échappé, dis donc.
Fin février.
Si, c'est Jean-Michel Aulas qui l'a dit en Noël les jours de l'an.
Donc, si par exemple, donc, tu as déjà donné comme message à Peter Bosz et aussi aux joueurs qui l'entraînent, on verra fin février. Ça voudrait dire que si, par exemple, tu vois, quand on parle des matchs où tu es heureux ou malheureux, hier, il y avait un adversaire du côté de Paris Saint-Germain, que quand tu te rappelles un petit peu du match aller et que tu as ce qui s'est passé hier, et que Lyon, sur les deux matchs que nous avons vus de nos yeux à la télé et tout, il y a un seul point pris par Lyon. C'est sûr que là, tu peux changer l'entraîneur, ça sera difficile d'être aussi malheureux et aussi malchanceux. Et ensuite, ça voudrait dire aussi que Lyon, dans cette première partie de saison, il n'y a pas quand même que du mauvais. il y a aussi quand même un match miraculeux qu'on appelle du côté de Nice avec un Lyon qui se balade pendant 80 minutes contre le second actuel qui est Nice. Et ensuite, tu as aussi un idiot qui jette une canette en plastique sur la tête de Payet. Tu te prends un coup de pied au cul dans la Coupe de France qui était quand même un de tes objectifs.
T'as Juninho, ton directeur sportif qui s'en va.
Par exemple. Et ensuite, on a tendance, vous me dites si je me trompe ou pas, à oublier complètement que dans cette première partie, il y a quand même un sans faute en Europa League avec un Lyon qui ne va pas s'emmerder non plus là. À leur tour aussi être devant la télé pour regarder qu'est-ce qui se passera en 16e de finale parce qu'eux sont déjà en 8e. Chose que suivant les résultats à venir, avec des joueurs absents à la CAN, Peter Bosz ne va peut-être pas jouer les 8e de finale.
Non, alors, pour être précis, Roland, plusieurs petites choses par rapport à ce que tu dis. Pourquoi il y a ce rendez-vous de fin février ? Parce qu'il faut voir le calendrier. Le calendrier, alors j'enlève le prochain match face à Troyes et le match face à Saint-Etienne qui est un match à part. Mais tout le reste, déplacement à Monaco, réception de Nice, déplacement à Lens et réception de Lille d'ici le 27 février. C'est pour ça que Jean-Michel Aulas a placé le curseur sur cette date-là pour voir un petit peu à ce moment-là l'état un petit peu d'avancée des résultats.
C'est quand même un ultimatum.
C'est pas forcément un ultimatum. Si on fera le point, parce qu'il y a tous les gros matchs en fait. Clairement, le 27 février, alors que le 8e de finale aller c'est le 10 mars, le match retour ça sera le 17, le 27 février, Bosz ou pas Bosz pour l'avenir, etc., on saura l'OL où elles seront. En sachant que désormais, on a imaginé dans le staff que sur les 19 matchs qui restent, en gros, pour être sur le podium, il faut en gagner 15. 15 sur 19, ça va être difficile quand même. Ouais. En sachant qu'il
Donc
va
en
y
gros,
avoir
dire,
la
en fait,
programmation.
On a déjà fait une croix sur le podium en fait, c'est ce que tu es en train de dire.
Non. C'est
non,
bah,
mais presque.
Après,
il faut penser série.
Imagine qu'il y ait toute cette série là, qui ça fonctionne bien parce qu'il y a bien un moment, coach, tu as raison, il y a bien un moment où ça va tourner parce que il y a des chiffres qui sont quand même fous, qui sont dingues. Les statistiques, mais... Lyon est l'équipe qui a été le moins menée au score de toute la première partie, 177 minutes. La deuxième équipe, c'est laquelle ? C'est Paris et Paris est 22 points d'avance. La troisième, c'est Marseille. C'est incroyable comme stat. Les Lyonnais ont pris 13 buts dans les 15 dernières minutes des matchs et 11 de ces 13 buts ont enlevé 11 points au total. 11 points au total. C'est incroyable. 2 points face à Clermont, 2 points dans le derby, 3 à Paris, 3 à Nice et 1 face à Reims. C'est des choses qui sont incroyables. Donc, à un moment donné, ça va peut-être bien tourner. Et moi, je ne l'ai pas ressenti comme un ultimatum fin février. On va voir ce qu'il en est. Il y a une série à lancer. Il faut absolument que cette série, on la lance. Et là, ce n'est pas des matchs moyens. Ouais, c'est Monaco, Nice, Lens, Lille. Et dans cette série-là, vous aurez aussi le match Lyon-Marseille. Parce qu'il y a un autre combat qui est en train de se lancer dans les coulisses. C'est la programmation de Lyon-Marseille, qui peut se faire le 26 janvier prochain. Et le 26 janvier, c'est quoi ? C'est une date FIFA pour le Brésil.
Ah, ah oui, ça c'est
et
vrai.
Et le Brésil, et ce match-là, les Brésiliens, donc on va imaginer Bruno Guimarães avec la forme qu'il a, il va être appelé, Lucas Paqueta, et donc c'est un match en Équateur, un match face au Paraguay les 27 janvier et 1er février. Donc vous imaginez que les Marseillais vont à tout prix vouloir que ce match ait lieu le 26 janvier. Donc, il y a une autre bataille qui est en train de se mener parce que maintenant que les recours sont abandonnés du côté de la commission de programmation peut justement fixer ce match. Donc, c'est pour ça, moi, cette date de fin février, je la vois par rapport à ce calendrier parce que là, franchement, on va être fixé assez rapidement, même déjà peut-être le 13 février après le match Lyon-Nice. On va voir si Lyon a remonté, a fait son opération remontada.
Que tu puisses la voir comme tu es en train de nous expliquer, bon, mais ok, j'essaie de te suivre, mais sans rien préciser. Et quand on voit ce calendrier, qui est un calendrier quand même, appelons ça, délicat, même avec toute la bonne volonté que tu peux mettre, tu es aujourd'hui pas à l'abri de joueurs qui ne sont pas là parce qu'ils sont à la CAN, mais tu n'es pas à l'abri aussi de certaines blessures qui sont quand même qui arrivent plus facilement avec ce Covid que dans les autres périodes. Donc, il y a un début de saison raté en championnat, j'ai bien dit en championnat, pas en Coupe de France et encore moins en Europa League. Et le calendrier te donne un calendrier, appelons ça, passionnant pour jusqu'à fin février. Et après, au mois de mars, tu joueras les huitièmes de finale de l'Europa League. Parce que n'oublions pas que suivant les matchs du mois de février, et ça n'échappera pas à Jean-Michel Aulas, ni à Vincent Ponceau, ni à Bruno Chéru, qui sont quand même des gens très compétents, chacun à leur poste. Suivant les matchs que tu fais, et suivant la qualité de ces matchs-là, mais tu ne peux pas empêcher Lyon, qui a déjà été éliminé de cette Coupe de France sans même avoir joué le match entier contre Paris Football Club, mais ils peuvent gagner l'Europa League. Hein. C'est pas interdit pour un club français de gagner l'Europa League. Et tu peux gagner l'Europa League avec justement les matchs et les mises en place de ces matchs contre les adversaires que tu nous as cités au mois de février. Donc c'est pour ça que la saison de Lyon, je ne dis pas ça pour assurer les supporters de Lyon, mais la saison de Lyon, elle est loin d'être terminée, même très loin.
Merci les gars, c'est fini. Merci Laurent.
Juste, ouais. Est-ce que je peux juste signaler concernant Jason Denayer, il n'y a pas eu d'offre de Newcastle pour assurer les supporters pour le moment, lui qui est en fin de contrat au mois de juin. Pour Azmoun, on a vu une information de nos confrères de Foot Mercato avec l'OL qui pousse avec une offre à 4 millions d'euros du côté de l'OL. On m'a dit que pour l'instant c'est au point mort. On m'a pas répondu sur un prêt qui pourrait être annulé de Chelsea par rapport à Emerson, donc il y a un petit doute par rapport à ça. Et puis la dernière info que je voulais vous donner, c'est que du côté de l'OL, on ne désespère pas d'avoir 25 000 personnes pour le derby du 21 février prochain. Fort de la bonne réussite, on va dire, sanitaire du match d'hier, on imagine que le process de diviser le stade en 5 stades différents, hermétiques, avec le pass sanitaire, avec des masques FFP2, qui a bien fonctionné pour 5 000 personnes hier. On a fait un gros dossier avec des photos, etc. Et on va dresser on va aller présenter tout ça au préfet, aux autorités, pour essayer pour ce match-là du 21 janvier prochain, pour le derby, d'avoir 25 000 personnes. Donc là, il y a encore beaucoup de travail du côté de l'OL. On se bat fort pour qu'il y ait du monde pour ce derby.
Merci Edouard, merci coach. Prochain podcast After Lyon, la semaine prochaine.
Salut à tous.
RMC.
Salut à tous.
After Lyon. Le podcast Gilbert Bribois.